Bonsoir à tous et bienvenue pour le traditionnel podcast du lundi de Folia Liga. Au programme, du confidentiel, quoique, une double dose de Classico et un Partidazo Valencia Betis pour terminer ce podcast, 74e du nom, je crois, si je ne me trompe pas, cher Benjamin Bruchet qui m'accompagne. Bonsoir, Bella.
Bonsoir, je pense que c'est le 75, 74, 75
74. Ah, ouais. Je ne me suis pas. Je ne me suis pas trompé. Il y avait un numéro 0, mais.
Ah!
Voilà. Mais je préfère 74 ou 75, si tu vois ce que je veux dire.
C'est ça.
Alors, on peut rigoler. Pourquoi je dis confidentiel? Parce qu'on va parler du Getafe, qui est peut-être le club le plus confidentiel de première division en ce qui concerne les clubs de Madrid.
Et le moins aimé aussi.
Le moins aimé, même par les gens de Getafe d'ailleurs, c'est assez surprenant. Celui qui fonctionne le moins bien en termes de supporters. En revanche, ils ont celui qui est pour moi, à l'heure actuelle, tout simplement le meilleur entraîneur de Liga, Pepe Bordalas. Et Getafe est quatrième de Liga, au nez à la barbe de Séville, du Betis, de Valencia, de la Real Sociedad. Et en fait, j'ai juste envie de dire, c'est pas souvent beau, mais qu'est-ce que c'est fort Getafe cette année.
C'est pas souvent beau. J'irai pas jusque-là parce que leur match contre cette semaine-là, c'est contre le Rayo qu'ils ont gagné.
Affirmatif.
Contre le Rayo, on a une équipe de Getafe qui a été conquérante, qui a mis en place son jeu, qui a fait ce qu'elle sait faire, mais qui a vraiment réalisé une belle partition collective où il y avait un bloc qui a su jouer haut, qui a su asphyxier par moment la relance du Rayo, un milieu de terrain. C'était Maximovic Flamini, me semble, qui a très bien marché. Fulquier, qui a été très bon. Mata Molina, ils ont été excellents, les deux. En plus, les deux sont très bien trouvés. Mata a marqué le premier but et Molina a marqué le deuxième but sur un caviar de Mata. Donc, c'est pas très beau. Oui, c'est sûr que c'est pas le Betis. Tu n'as pas la capacité de sortir des actions collectives, des sorties de balles, un jeu positionnel très bon. C'est sûr que c'est pas une équipe qui va être frisson par moment. Parce qu'ils ont déjà, ils n'ont pas les joueurs pour faire ça. Getafe, si on regarde chaque joueur et qu'on fait la liste de tous les joueurs, y a la moitié de l'équipe, l'effectif n'est pas bonne ou est très vieille. On est sur une équipe de vieux briscards, des trentenaires. Si je dois ressortir un joueur qui, pour moi, peut-être prétendre à jouer dans un club de top niveau, mais quand je dis top niveau, c'est un club qui va être ambitieux, qui va jouer la 5-6e d'un gros championnat, ça sera Djéné, Nakonam. Sinon, Damien Suarez, Antunes, Arambari, peut-être Maximovic qui est un peu bon, Fulquier, Mata, Molina, c'est des garçons, ils sont à leur prime, ils arriveront jamais à jouer plus haut, même de les voir jouer la zone championne, c'est quelque chose de fou. On est sur une équipe qui est très bien travaillée collectivement, qui est très bien travaillée dans sa manière d'approcher les matchs, dans sa manière d'aborder les matchs. On l'a vu contre Eibar, ils ont joué d'une certaine manière pour bloquer les côtés et bien jouer à l'intérieur pour mettre de la pagaille dans l'organisation d'Eibar. Là, contre le Rayo, qui est une équipe qui s'est relancée derrière et qui sait jouer au football, ils les ont joués plus haut pour les presser. On est sur une équipe vraiment caméléon. On est sur une équipe qui prépare très bien ses matchs. Tu avais un peu pensé à ce qu'avait fait Luis García Plaza à Getafe avant qu'il parte au Moyen-Orient. On est sur une équipe qui prépare super bien ses matchs. Ils ont perdu que 6 matchs cette saison. Hormis la défaite contre l'Evente sur un coup de canon de Bardi, c'est que les défaites contre le premier, le deuxième ou le troisième. Sinon, ils ont perdu contre personne d'autre. Tous les matchs ailleurs, ils ont pris les points. On peut sortir le match notamment contre Séville en début de saison où Bordalas a mis une leçon à Machin, mais vraiment une leçon. Donc vraiment, c'est vraiment pas une surprise de les voir à ce niveau-là. C'est pas une surprise, c'est pas surprenant de les voir performer, de les voir bien préparer les matchs. C'est surprenant de les voir aussi haut, surtout parce que la Liga stagne. Betis, Valence, Séville, les clubs qui devraient être bien plus haut et qui devraient là, vu que la Liga n'avance pas, se battre pour la troisième ou la deuxième place. Sauf que les écarts sont déjà grands et on a un océan de clubs qui sont en capacité de jouer entre la quatrième et la septième place. Et dans cet océan de clubs qui sont en capacité de jouer la, la zone Champions et Europa League, Retafé, c'est les meilleurs parce que c'est les plus constants, c'est les plus sûrs tactiquement. Bordalas, c'est le garçon qui est le plus en capacité de donner la permanence à son équipe, de donner de la continuité à ses choix, d'être en capacité de faire des rotations. Par exemple, Setién est clairement perd clairement beaucoup de points parce que son banc ne réussit pas à pallier et à faire et être et quand je peux dire ça et à pallier et à réussir à être au niveau quand il fait reposer ses cadres. Retafé réussit à faire reposer Moulina pas certaines fois. Seis joue de moins en moins. Arambari joue pas tous les matchs. Bruno joue pas tous les matchs. Gené, ils ont réussi à le faire souffler aussi. Antunes, ils ont réussi à le faire souffler. Ils ont un groupe de 15, 16, 17 joueurs qui peuvent se remplacer sans que le rythme de l'équipe et les choix et les matchs soient en pâtissent et les résultats en pâtissent. On est vraiment sur une superbe équipe qui joue un bon football. On parle souvent de qu'est-ce que c'est bien jouer. Bordalas l'a expliqué cette semaine, donc je crois que c'est une interview à ABC, il me semble, ABC, je ne suis pas sûr. Mais il a expliqué que Retafé joue bien au football parce que Retafé a un plan. Retafé, c'est comment aborder ses matchs. Retafé a un style. Retafé a une manière de jouer au football. Et Retafé la récite. Retafé, quand on voit jouer Retafé, ils ont un style reconnaissable. On sait ce qu'ils veulent faire. On sait où ils veulent aller. Et ils font bien. Du coup, oui, Retafé joue bien au football. Ils n'ont pas le football le plus beau, mais ils jouent bien au football.
Oui, ils ont ce 4-4-2 avec un double pivot. Tu as parlé de Arambari et de Maximovic. Il faut pas oublier qu'au milieu de terrain, ils ont Fulquier qui peut jouer sur la ligne de 4 défensive, mais aussi dans la ligne de 4 offensive, qui a marqué d'ailleurs récemment.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup Marc Albergara, mais qui est souvent blessé malheureusement, mais c'est un joueur qui est vraiment bon. Mathieu Flamini joue beaucoup par rapport à ce qu'on pensait au départ.
Il est revenu cet hiver en plus, comme l'a dit son dernier.
Exactement, il y a Francisco Portillo, moi j'aime beaucoup Cristoforo qui jouait à l'ancien du Séville. Donc au milieu de terrain, c'est vrai que c'est très bon. Maximovic à Valencia, on savait qu'il avait du niveau. Malheureusement pour lui, il est tombé sur Palermo, Condogbia, Coquelin, donc notamment c'était un peu chaud. Il s'est passé d'ailleurs la même chose avec Uros Rakic qui en ce moment est en prêt à Tenerife, qui marche très bien à Tenerife, mais à Valence pour avoir du temps de jeu à ce niveau-là, c'est beaucoup plus compliqué aussi parce que tu joues en 4-4-2. Après, l'équipe est devant, on a l'impression que ce serait l'endroit, le compartiment le plus faible, mais c'est des joueurs qui sont tellement rusés, tellement malins. Molina, ça a été un des plus grands buteurs de l'histoire du Betis. Jaime Mata, c'était le meilleur buteur de la Segunda de son dernier arrivée à la Dolid. Il y a Angel aussi. Ils ont quand même relâché Guardiola, Sergi Guardiola.
Ouais.
Alors, il l'avait pris, c'était une bonne pioche, mais effectivement, il jouait trop peu.
Il jouait pas.
Ouais, c'est ça, oui. Et oui, quasiment. Il a joué très peu de minutes. Mais si on prend l'arrière-garde, parce que clairement Bordalas c'est un joueur qui quadrille très bien et on retrouve beaucoup des forces aussi dans ce que t'as fait là à des degrés différents, mais on les trouve aussi à Alaves qui joue la plupart du temps joue en 4-4-2 sauf quelquefois les gros matchs en
4-3-3. Là on a un vrai changement et Abelardo joue en 4-3-3. Il est encore ressorti ce week-end là, ça marche moins bien,
mais parce qu'il a fait mieux dans l'année. Mais peut-être que c'est par rapport à ses forces aussi et qu'il se dit qu'en 4-3-3, il peut exploiter davantage de possibilités. Mais c'est vrai que bon, ils ont quand même perdu Ibaï et Robin Sobrino, ça lui fait moins de choix devant aussi. Donc. Mais après, quand on prend les gardiens de but, par exemple, David Soria, c'est un joueur qui a quand même gagné la Coupe d'Europe avec Séville. C'était quelqu'un qui était gardien remplaçant derrière Sergio Rico et il jouait la C3 et il l'a gagné. Djéné, on en avait parlé en début de saison, il a eu un peu de mal à encaisser un peu son non-départ, mais là maintenant il est revenu à un super niveau, d'autant qu'en plus il avait commencé la saison un cran au-dessus.
Ouais, ça montre bien aussi la force de Bordalas dans sa manière d'appréhender le match et de quantifier et d'analyser son effectif. Djéné, il a commencé les 2-3 premiers matchs derrière, c'était pas bon, vraiment, il était pas dedans. Il ratait énormément de situations, d'interceptions, d'interventions. Du coup, pour ne pas le casser, cette dynamique de retour sur le terrain, mais pour le protéger, ne pas mettre en difficulté son effectif et son collectif, il a fait jouer milieu. Il a joué 4, 5, 6 matchs milieu de terrain. Ça lui a permis de mieux s'équilibrer, que Djéné se remette la tête dans le football et que son arrière-garde reste protégé. Et Djéné a repris le coup du terrain, a repris les enchaînements de match, a retrouvé son excellent niveau. Il a redescendu derrière. C'est le retour du patron qu'on a vu la semaine dernière. Mais ça montre bien que Bordalas, il a plusieurs lectures. Il sait faire des choix. Il sait quantifier son effectif. Il sait le bonifier. Il écoute ses joueurs. Il prend soin de ses joueurs. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes.
Tu parlais de la défense, des joueurs qu'on avait l'habitude de voir la saison dernière. Alors évidemment, les inénarrables frères Tapdur, Antunes et David Suarez, qui bon, sont
les distributeurs de claques,
qui sont à la position que Marc Lévit à la littérature, pour dire les choses rapidement. Mais il y a aussi des joueurs qui, comme tu l'as dit, qui tournent un petit peu. Alors il y a Bruno González. Alors faut pas se tromper parce que c'est Bruno González Cabrera et il y a Leandro Cabrera. Ce sont pas les mêmes joueurs. Ce sont deux défenseurs. Très rude. Alors, Leandro Cabrera, il est uruguayen, donc ça vous donne une petite idée de.
Avec Damien Suarez, ils s'entendent bien, globalement.
Les paquets uruguayens d'Atlético. Il y a aussi Oliveira, qui joue régulièrement, qui est aussi uruguayen. Donc, c'est une bonne.
La filiation avec l'Atlético est clairement. Enfin, est claire, elle est assumée, elle est revendiquée. On le sent. On est sur le Tulismo 1.0, ça se voit sur le terrain, ça se sent, et c'est vraiment c'est dans les choix des hommes, dans les choix des styles, dans le choix des jeux, dans l'appréhension des matchs, on est sur le même style, et ça marche super bien, et c'est super bien.
Que j'adore. Ouais, parce que, comme tu le dis, il y a une filiation qui est claire, et si elle n'est pas revendiquée, elle est au moins assumée, il y a beaucoup de joueurs d'intérieur dans cette équipe, il n'y a pas vraiment d'ailier, à part peut-être Samu Saïs, à la rigueur.
Et il vient d'arriver.
Il
vient pour compenser la blessure de Amatian Ndiaye, qui était ce joueur d'extérieur, qui était ce joueur qui devait apporter quelque chose balle au pied. Sa blessure, il fait rentrer Samu Saïs. Samu Saïs, il arrive de Leeds. Il avait des problèmes extrasportifs. Il a quitté Leeds alors que c'était l'impact player de Bielsa. Je pense qu'il a peu de mal à digérer la préparation de Bordalas, surtout qu'à Leeds, il jouait plutôt 10 ou en tout cas proche de la surface. Là, on lui demande de jouer ailier dans un 4-4-2 où il doit beaucoup travailler. Du coup, Portillo lui est préféré, ou même Portillo et Cristoforo. C'est les deux qui ont joué à son poste et Oliveira à un moment aussi. Et Antunes a joué aussi à ce poste-là. Mais oui, c'est le seul vrai joueur de déséquilibre qui a un style un peu plus offensif et dribbleur. C'est Samu Saïs et Amatian Ndiaye.
C'est vrai que Samu Saïs, il passe de Bielsa à Bordalas, il faut se mouiller la nuque. Hein,
parce que
c'est exactement le même délire. Parce qu'en fait, on a envie de dire que les trois attaquants, en fait, ils se débrouillent très bien entre eux. Ils ont une intelligence de déplacement et d'anticipation des ballons. Alors, Molina, c'est vraiment l'exemple.
Mais Molina, il doit faire 4 courses dans le match. À chaque fois, il enrhume son défenseur. Il a 35 ans. Tu te dis, il ne va jamais arriver à le passer. Et c'est n'importe qui en face. Il arrive à mettre le coup de rein pour passer. Ça passe 5-6 fois dans le match. Mais à chaque fois, ça fait mouche. Il a cette capacité à savoir quand il faut se lancer. Il fait 4 mètres. Il a mis 1 mètre à son défenseur alors qu'il est super vieux, super grand. Il n'a jamais couru très vite. Et il arrive à chaque fois à faire mal à sa défense. Et en plus ça, quand il rentre dans la surface, ça fait peur que c'est un garçon qui vraiment, c'est le talisman de Retafe.
Alors, c'est marrant parce que là, pour la petite anecdote, la saison dernière, Benjamin me parlait de Molina. Et il me dit, je vais faire un papier. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, Molina? Il a 34 piges, le mec, il a besoin d'un déambulateur. Et ben voilà, bien fait pour moi.
C'est vraiment fou.
Ah, Benjamin avait très bien anticipé le coup. Voilà, donc, à la Molina, justement. Alors que moi, j'ai fait, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et, bien sûr. Et vas-y.
Pour continuer dans cette logique-là, quand Bordalas fait signer Matas en début de saison, clairement, Angel doit plus jouer titulaire. Dans son esprit à lui, Matas doit jouer en pointe parce qu'il est un peu plus costaud, parce qu'il est plus présent dans les duels, parce qu'il a l'air de mieux s'entendre avec Molina. Sauf que Matas a beaucoup de mal au début de saison. Il a du mal à enchaîner, il a même joué ailier à un moment. Il a vraiment du mal à se mettre dedans. Du coup, toujours pareil, Bordalas a cette capacité de ne pas forcer son choix, de laisser Molina, Mata sur le banc, de remettre Angel Rodriguez, de jouer avec Angel Rodriguez, Molina, de jouer Mata, Angel Rodriguez, de mixer les choix pour faire rentrer Mata petit à petit dans le moule, qu'il commence à comprendre ce qu'on lui demande et qu'est-ce qu'il doit jouer, comment il doit jouer. Parce que pareil, on parle de Mata, il a une très bonne saison avec Valladolid la saison dernière. Il refuse la Chine, notamment à l'hiver, pour finir la saison avec Valladolid. Mais ce n'est pas un goleador de folie, Mata, avant qu'il arrive à Retafe ou qu'il explose à Valladolid. Ce n'est pas un buteur phénoménal. Là, il a 10 buts, comme Molina qui a 10 buts aussi. Mais voilà, ça montre la capacité que Bordalas a de rectifier ses choix, de mettre en place quelque chose, de réfléchir. En même temps, il pense le court terme et le long terme, et le long terme, ou le moyen terme, en tout cas sur une saison. Il se projette toujours à 3-4 mois, mais en même temps, il sait qu'à l'instant T, il doit avoir des résultats. Il arrive à manier ça très bien pour, comme je l'ai dit, avoir un groupe de 16-17 joueurs qui peut interchanger sans que l'équilibre de l'équipe ou le style de l'équipe n'en pâtisse. Et je vais continuer de faire le parallèle avec le Betis, ce que le Betis ne peut pas faire. Le Betis, quand on a Lo Celso, Canales et Carvalho, ou même juste un des trois, l'effectif, l'équipe n'est plus du tout la même, mais vraiment plus du tout la même. Alors que Retafe, il change, on peut changer 2-3 joueurs, ça ne va pas fondamentalement changer l'équipe, et je pense qu'ils seront totalement cohérents. Et c'est vraiment très important.
On va terminer sur cette partie sur Retafe en se focalisant plus sur José Valdalas, parce que José Valdalas, il va avoir 55 ans le 5 mars, donc c'est un entraîneur qui est relativement âgé, même s'il paraît très jeune.
Son glow up, il est quand même énervé lui aussi.
Comment ?
Son évolution physique.
Oui.
Il a 34 ans, il n'avait plus de cheveux, il était un peu bedonnant, il avait un style un peu de sudiste qu'elle est en boîte.
Ouais, mais là, il est un peu plus sec quand même. Là, il a bien perdu.
Il a vraiment pris soin de son apparence.
Donc, il est d'Alicante, il a pas mal bourlingué dans les basses divisions. Il a eu notamment comme adjoint Asier Garitano, qui après, ils sont retrouvés dans le derby Leganés-Retafe. Donc, ça, c'est quand même. Ils ont une histoire parallèle. Il avait fait monter le Deport à la veste de Segunda en primaire là, mais il s'était fait lourder. Voilà, il s'est pris El Flaco Pellegrino qui maintenant est à Leganés. Il est commencé la saison sans club 2016-2017 et puis après il est arrivé très tôt à.
Il a pris Retafe qui était dernier ou avant dernier de Segunda.
Pour les fans du football des 90s, c'était Juan Snyder qui entraînait le Reta à cette époque-là, qui avait repris le club. Et qui venait de descendre. Et oui, après ils avaient sauvé un peu à la manière d'un Pablo Machín, dans un style différent à Girona. Et voilà, maintenant c'est vraiment plus le même club. Alors, c'est un club qui fonctionne très bien parce que Planas par exemple a été recruté par le Barça pour être adjoint d'Abidal.
Mais c'est par contre Retafe.
L'idée du niveau du recrutement effectué, parce que Djéné, il joue en Belgique quand il arrive au Reta. Il faut quand même se poser la question de savoir comment Djéné a pu se retrouver au Reta, alors qu'il joue en Belgique. Techniquement, il a peut-être pu se retrouver dans un club français. Enfin, moi, je pense que quand même là, au niveau attractivité, on ne pourra pas penser que Retafe, c'est plus.
Retafe. Juste regarder le compte Twitter de Retafe et les montages de Retafe.
Oh, ça, c'est la magie.
On est sur quelque chose. Ils sont sur Pen 98. C'est quelque chose de faux.
Mais je sais pas s'ils en jouent, tu vois. Moi, je pense qu'ils sont nuls, mais pas volontairement.
Non, moi, je pense qu'ils sont nuls, clairement. Mais
de base, mais.
Mais pour vous dire, à tellement on est surpris, le Coliseum Alfonso Pérez était plein, enfin plein, était rempli contre le Vallecano. Ça a surpris tout le monde. C'est un club qui n'a jamais vraiment attiré grand monde.
Ah, les bons résultats, ça attire quand même. Puis après, t'as toujours les gros matchs, c'est toujours plein comme
contre le Rayo Vallecano.
Non, pas contre le Rayo, mais là c'est parce qu'il y a du.
Il y a du jeu, c'est sûr.
Mais des résultats, mais sinon les gens n'ont pas vraiment quelque chose à secouer. Non, mais c'est très intéressant avec ça. Faudra qu'on revienne un peu sur les traitements des clubs à Madrid, sachant que Elias Bailly a sorti un très bon papier sur les différents stades. On dirait un mini vélodrome en fait. C'est très étonnant parce que Leganés, qui a 4 km, réussit à faire 8500 abonnés sur un stade de 11 000-12 000 places. Et ils sont. Il y a une bonne petite ambiance pour un club voilà, de banlieue. Et le Reta qui est à côté n'y arrive absolument pas. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient une volonté de le faire. Après, s'ils sont en Coupe d'Europe, ça va ramener du monde. C'est sûr, surtout qu'en plus, le Reta, ils ont une belle histoire avec la Coupe de l'UEFA, parce qu'ils ont été sortis en quart contre le Bayern de Luca Toni, en termes d'une prolongation de folie au Colisée. C'était l'époque où il y avait un certain Michael Laudrup qui entraînait. Je crois d'ailleurs que c'est la meilleure période de Laudrup comme entraîneur. Parce qu'après, on a un peu.
Il y avait Mitchell aussi. Hein.
Oui, il y avait Mitchell. Il y
C'est
avait
avant ou
Mitchell.
après? Je crois que c'est après. Avant?
C'est après, il me
Après.
semble. Mais c'est après. Mais Laudrup, c'est quand même eu, hein, ça a quand même plus de 10 ans cette histoire. Mais.
Bah, Mitchell, il fait le meilleur classement avant celui-là, je pense. Il a fait le meilleur classement de Getafe en Liga. Je crois que c'est une 7e place ou une 6e place. Bien sûr.
Ouais, mais là c'est parti pour être battu. Et pour terminer, tu sais quel sera le prochain match du Reta?
Je vais te dire ça dessus, mais ah,
Il
des bêtises.
va. Et ouais, 26e journée contre le Bétis. On a envie de dire que si le Bétis perd, sachant qu'il va avoir quand même un match de coupe, on y reviendra tout à l'heure.
Ouais.
Mais si jamais le Bétis venait à perdre, même ne serait-ce que faire match nul, ça va être très très chaud, sachant que c'est le bon moment là. Si le Reta venait à prendre 3 points, il y a Villarreal à l'Alavés. Ce sera pas facile. Alors Séville un peu plus tranquille parce que ça va à Huesca.
Allez
Quoique,
à Huesca, le Bétis a perdu là-bas.
ouais, c'est un petit peu froid en ce moment. Et ouais, t'as raison. Il y a Real Sociedad Atlético de Madrid à Anoeta. Alors bon, la Real Sociedad est invaincue pour l'instant depuis le début de saison, mais bon, là contre l'Atlético qui est un petit peu revenu sur les rails avec un match contre la Juventus, avec un joueur, tu sais, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Antoine Griezmann.
Ah non, mais je souffle, je vais souffler en attendant son nom comme une
Ah
certaine.
ouais, moi j'ai envie de dire, tu vois, je vois ce joueur-là, tu vois. Ouais, non, franchement. Ah, tu vois le nom, le. Surcoté, Antoine
Ah
Griezmann.
ouais, non, mais je sais pas ce qu'il fait avec un ballon d'or.
Alors, j'ai eu le bonheur d'être à Wanda Metropolitano contre la Juventus. Bon, voilà. Si vous me dites qu'Antoine Griezmann n'est pas le meilleur joueur français à l'heure actuelle, alors des offensifs, parce qu'on peut toujours discuter sur des postes, mais Antoine Griezmann, c'est la folie. Qu'est-ce qu'il est bon! Il comprend tout. Enfin, c'est vraiment le QI football incarné, quoi. Donc, bon. Peut-être, il y a Messi. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a Messi, il y a lui. Voilà. Au moins en Liga. Et peut-être, après, j'ai pas trop les connaissances sur le football ailleurs. Mais là, quand même. Quel joueur complet, mais il est fin. Mais bon, il met que des pénaltys, donc voilà. Ouais. On va pas revenir là-dessus, mais bon. Voilà. Antoine Griezmann, il progresse d'année en année, c'est incroyable. Bref, et pour terminer sur la prochaine journée, il y aura un Valencia Athletic Club de Bilbao. Et
Bah,
celui-là, il va falloir aussi, parce
bon,
que c'est pas mal, et Valence enchaîne les matchs nuls, comme d'hab.
bah, surtout que là, on est sur deux clubs à 33 points. Ils sont qu'à 4 points de la 5e, mais ils sont déjà à 6 points de la 4e.
Si le Reta gagne, s'il n'y a que le Reta qui gagne, ça va quasiment être fini.
Fini, je sais pas, mais en tout cas, la quatrième, ça
Il
presque.
va rester, il va rester 12 matchs, mais il va falloir aller les chercher, hein, parce qu'à la
Ouais, mais
maison,
après, ça va se jouer toujours entre la 5e et 7e.
c'est pelouse pourrie, Alfonso aussi, hein, Alfonso PLS. Hein, ça va être. Ouais, non, ils ont vraiment intérêt à prendre des points à Huesca, parce que sinon, ils vont se prendre les doigts. Hein. Et le Betis, c'est victoire si aussi, hein, parce que sinon, leur saison peut être finie en fin de semaine, enfin la semaine prochaine, le Bétis. Je crois qu'on a fait le tour sur le Rétafé.
Ouais,
Benjamin? Ah, t'es là, ok.
je suis
Ben,
là.
je salue Elias Bailly, qui déteste
Oui, mais ils sont
Rétafé.
en Espagne, il y a vraiment énormément de gens qui n'aiment pas Rétafé.
Ouais, mais je crois que c'est
Le
vraiment.
jeu pour.
Ils sont descendus, Rétafé, je crois que personne n'a pleuré.
Ah non, mais personne, mais c'est vraiment le club que personne
Quand on est
n'aime.
sorti à la dernière journée et qu'ils sont descendus. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est contre le Betis qu'ils sont descendus, Reta.
Oui.
Je crois que c'est un match au Coliseum d'ailleurs. Ouais, je crois qu'ils avaient perdu à domicile. Donc voilà, donc ça va être une petite revanche dans l'air. On va passer à la deuxième partie de ce podcast du lundi avec double ration de Classico. Le premier en Copa del Rey, le deuxième en championnat. Alors. Le Real Madrid va faire all-in, tu penses, sur la Copa del Rey et la Liga, on verra plus tard.
Oh bah là, clairement, je pense qu'ils sont en capacité de le faire, en tout cas. Je pense. Tu as 9 points de Rétafé, même s'ils finissent quatrième, c'est pas fondamentalement très grave parce qu'ils seront en Ligue des Champions directement. Mais il y a encore un matelas. Là, ils sont plutôt sur une bonne. dans une bonne composition la Copa, même si c'est que la Copa del Rey, ne pas faire une saison blanche, c'est quand même plutôt sympa.
Ouais, ils vont la prendre, hein, s'ils peuvent taper le Barça.
Voilà, tu tapes le Barça, en finale, en plus, tu prends Valence ou Betis. Ok, ça ne sera pas un match facile, mais tu ne tombes pas à l'Atleti, tu ne tombes pas le Barça, tu ne tombes pas sur un match sec, c'est jouable, tu peux largement le faire. Et voilà, je pense que oui, all-in, je ne sais pas, parce que tu ne peux quand même pas prendre une grosse tollée contre le Barça et tu peux essayer de laver l'affront en gagnant au Camp Nou. Mais voilà, c'est vrai que la défaite contre Girona a dû revoir quelques priorités. Je pense que l'important, ça va être de boucler de gagner la demi pour se qualifier. Et après, ça sera de bien jouer et d'être, je vais pas dire d'être au niveau parce que le Barça n'est pas très bon, mais ça va être de laver l'affront en Liga. Mais pour moi, l'objectif de la finale de Copa est clair et je pense qu'il est logique.
Alors, sachant que, comme tu l'as dit, la défaite contre Girona a vraiment mis un frein aux ambitions du Real Madrid. Alors, c'est très surprenant parce qu'on pensait qu'ils étaient partis sur une phase ascendante et ils sont passés en coup d'égout contre l'Ajax avant de se manger contre.
La seule fois où ils ont fait tourner un peu, où Solari a vraiment fait tourner, il a mis Marcelo, il a mis Ceballos, il a mis Vinicius sur le banc. Il s'est pris les pieds dans le tapis.
Oui, donc là, ils sont. C'est dommage parce que tu te dis, s'il y avait 51 points, alors effectivement, ils ont pris 5 et 4 buts d'écart par rapport au match contre le Cana, donc ça faisait quasiment un point d'écart à moins d'un retournement formidable de situation. Mais ils seraient à 6 points, tu gagnes, tu reviens à 3 points. Là, maintenant, s'il y a une victoire en Liga, ça va surtout arranger l'Atlético de Madrid.
C'est ça.
L'Atlético de Madrid, au final, on les voyait gros comme un camion en début de saison. Ils ont largement déçu, puis ils sont toujours là, ils rôdent, quoi.
Bah, 7 points, ça fait loin, mais c'est vrai que il reste encore un Barça Atleti, un Barça Real. L'Atleti, ils n'auraient pas perdu contre la Real, contre le derby à domicile, ils seraient plus haut. Voilà, en vérité, ils sont tous les deux à se tirer un peu dans les pattes et avoir du mal à avoir la constance. Et le seul club qui continue et qui lâche pas l'affaire, c'est le Barça.
Le Messi, tu veux dire.
Voilà, oui, bon, voilà. C'est le Barça de Messi qui continue de bien rouler, quoi.
Voilà, c'est le Messi, le football club de Messi, quoi. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Ah bah, c'est 3 buts qu'il met, la passe qu'il donne à Suarez. Bon. Là où je trouve qu'il est fort, Messi, c'est qu'il arrive à relancer Suarez.
Il arrive à relancer tout le monde. Enfin, je sais pas. Tu regardes bien, tu es en train de te dire que le remplacement boiteux de la 45e minute que Valverde fait rentrer Sergi Roberto à la place de Semedo, qui a fait rugir tout le monde parce qu'il est illogique ce remplacement, tu te dis en fait c'est bien parce que ça a permis de libérer totalement les offensifs, que derrière ça a verrouillé un peu, ils ont eu quasiment plus d'occasions et ça a déroulé et tu te rends compte qu'en fait il arrive à un choix boiteux du coach, ça devient un choix payant parce que Messi c'est Messi, quoi. Le premier but il est formidable, le deuxième il est formidable, en plus c'est son mauvais pied, tu te dis bon c'est son pied faible, le troisième il est donné. Qu'un ballon arrive aussi doucement dans la surface en 1v1 avec autant le temps de pouvoir faire ce qu'il veut, c'est tu te dis il est offert ce but. On lui dit voilà, tu vas marquer Messi. On est content pour toi.
Et ouais, le ballon arrive parfaitement en plus.
Il est contré, il est donné comme il faut. Et après, face à Suarez, c'est la 90e minute, il est en déséquilibre, il donne une passe et une passe, il donne un caviar pour Suarez.
Il n'est pas là. Ouais, Suarez qui marche le but en plus. Il n'a peut-être pas tenté le but de match. Mais au final, le Barça, c'est principalement Ter Stegen Messi cette saison. C'est les deux sauveurs de la patrie. Il y a du monde autour. Mais sans aller à dire qu'ils jouent les utilités, c'est vrai que si l'un devant ne va pas, ça ne marque pas. Et quand l'autre n'est pas bon derrière, ça prend des pions, quoi.
Bah, donc, regarde, tu prends la première mi-temps. Séville-Barça prend l'eau et prend l'eau. Ils n'ont pas l'occasion parce que Vidal n'est pas bon, parce que Mtiti, je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon parce qu'il est en phase de retour, mais il n'est pas prêt. Suarez n'est pas en jambes. Coutinho se cache. Rakitic est trop simpliste dans son jeu. Alba ne propose pas de solution. Vraiment, le Barça a joué en se faisant peur, a été dominé, a pris une vague du Séville. Et le seul qui les tient, il les maintient en vie d'un but stratosphérique, parce que, ok, la passe de Rakitic est très belle, c'est vrai, mais la volée qui met Messi, elle est formidable. C'est le but qui les maintient en vie, parce que, à mon avis, 2-0 à la pause, c'est compliqué. À mon avis, c'est plus compliqué que 2-1 et de se dire que tu as apporté de fusil, que le Barça était très proche de Séville. Après, Machin se prend les pieds dans le tapis et fait des mauvais choix à la mi-temps et en seconde mi-temps. Mais voilà.
C'est classique chez Machin de se prendre les pieds dans le tapis. Hein.
C'est vrai.
Non, mais sans plus, c'est un coach que j'aime beaucoup. Mais l'impression qu'il…
Mais là franchement, comme c'est le compte de Séville France qui a fait une bonne analyse sur ça. C'est une bonne idée de se dire ils vont attaquer, ils vont presser avec Dembélé. On plie un peu le derrière, on essaie de verrouiller un peu derrière et on se met à balancer les ballons pour Promesse. C'est une bonne idée dans l'absolu. Sauf que quand tu utilises ces trois cartouches à la 60e minute pour faire entrer 3 milieux centraux, tu te tires une balle dans le pied. Tu peux pas. Après, le Séville, ça a été une proie facile, c'était une bête blessée. Ils sont rétractés. À la fin, ils ont été compactés par Messi. Et après, c'était facile. Il les a croqués. Mais c'est vraiment pris les pieds dans le tapis. Alors que la première mi-temps qu'il fait, elle est très bonne. Vraiment. Et ça me fait penser un peu à la double confrontation en Copa del Rey. Premier match, ok, le Barça a fait largement tourner, mais ils font un très bon match.
Sans Messi, d'ailleurs.
Sans Messi, mais ils font un très bon match. Ils sont très intéressants. Il gagne 2-0, si mes souvenirs sont bons, ou 2-1, 2-0. 2-0, c'est très bon. Deuxième match, il arrive avec un 11 très défensif, il en prend 6. C'est pas une surprise.
C'était une faute majeure, parce que ça s'est vu dès le…
Dès le coup d'envoi, que c'était pas bon.
Non, même avant, les discussions d'avant-match, ils disaient, oui, mais si Messi, il est chaud, il n'y a rien qui est fait, alors qu'ils auraient dit, on y va pour les enfoncer. Il s'est renié à ce match-là. Ça, le problème, c'est que après, Machin n'a pas encore beaucoup d'expérience en Liga, mais t'as deux buts d'avance, Messi pas Messi, il faut que t'y ailles. Tu sais, si tu perds autant que tu perds avec tes idées, quoi. On va citer, t'as fait un portrait de lui il y a pas longtemps de Mendy Libar. Mendy Libar, il a pris quelques fois des tannées au Barça ou au Real. Mais il perd avec il peut en prendre 6, mais il a joué ce qu'il avait à jouer, tu vois.
Bien sûr.
Remarque, ça est arrivé aussi l'année dernière.
Mais après, c'est ce qu'il faut faire, il faut jouer. J'ai une intervention de Zahid sur le chat.
Tu lis dans mes pensées.
Qui parle de Solari et que c'est un coach qui ne convient pas au Real. Je ne suis pas totalement d'accord, je serais même totalement contre cette idée-là, parce qu'on l'a expliqué, tu parles du trait d'Elias qui est très bon. Mais Solari, pour être coach au Real, il faut plus qu'avoir des capacités tactiques. Surtout que le Real, depuis la Quinta del Buit, ne joue pas, n'a jamais joué un bon football collectif.
Il y a eu Del Bosque, ouais. Des Galactiques, mais si on parle de… On peut dire que la dernière fois où le Real a bien joué au foot, c'était cette époque-là. La dernière fois où il a très bien joué au foot…
Voilà. Sinon, ça a toujours été un amoncellement d'individualité qui sont très peu interchangeables et le Real survit sur ça. Le bon retour au niveau et au bon niveau en début janvier, enfin tout janvier, c'est parce que Kroos, Modric, Vinicius et Benzema sont excellents et même Ramos. C'est ça, mais le Real c'est ça. C'est pas le jeu du Barça, c'est pas la base collective du Barça, c'est pas la base technique du Barça et collective du Barça. C'est des très bons joueurs qui sont très bons et qui changent le cours du match. Solari comprend très bien ça. Il a relancé Modric qui était à la cave en première partie de saison. Ramos qui a toujours été bon, mais il a quand même tenu la baraque. Le nouveau rôle de Benzema, c'est Solari qui l'a libéré, qui lui a donné de la liberté tout en le conseillant de rester dans la boîte pour conclure. Vinicius qui prend la place de Bale, c'est Solari.
Bale le golfeur.
Voilà. Mais globalement, il a réussi à mettre du calme. Pourtant, Solari, il aurait pu prendre des tempêtes. La défaite contre Eibar, la défaite contre Girona, il aurait pu prendre des temps. Il aurait pu vraiment qu'il y ait le feu dans la maison parce qu'il y a eu des mauvais matchs, il y a eu des mauvaises périodes, des très compliquées niveau jeu. Même là, la victoire contre Levante, on en parlera peut-être pas, mais elle est scandaleuse. On peut le dire clairement qu'elle
ah, elle bah, reflète, ce qui s'est passé hier
ne reflète pas le niveau, mais globalement il a amené du calme, il a amené de la tranquillité, il a amené un espace de travail intéressant et qui a permis aux joueurs d'être au niveau. Peut-être c'est pas, pour moi c'est peut-être pas l'entraîneur le plus qualifié ou le plus intéressant, enfin, le plus intéressant que je dirais, le plus sexy sur le papier, mais sur la liste, c'est un garçon qui connaît les arcanes du pouvoir, qui est très proche de Florentino Pérez, qui connaît très bien les jeunes du Real. On peut aussi dire que il connaît très bien le vestiaire, il s'entend très bien avec eux. Le fait d'avoir mis Marcelo de côté, qui était un homme de base des derniers succès, de mettre Reguilón, qui est excellent, Reguilón, et je le dis, c'est vraiment le titulaire à gauche, il y a zéro contestation possible. Et Marcelo, personne s'en émeut de son style. Isco qui joue pas, parce que Isco, on en avait déjà parlé X fois, c'est l'homme qui est fort quand le Real n'est pas bon, ou en tout cas quand le Real n'est pas au niveau. Solari, il a tranché dans la vie parce que Isco, dans sa logique, il n'a pas lieu d'être. Il n'a aucun intérêt de mettre Isco parce qu'il ne demande pas une fausse possession comme l'a fait Zidane. Zidane, pendant longtemps, c'était de la fausse possession. C'est la possession où on fait croire qu'on n'est pas bon. Les joueurs en face vont sentir un peu pousser des ailes. Ils vont nous attaquer, on va les contrer. Solari, ce n'est pas ça. Solari, c'est de la verticalité. C'est un jeu qui est très vertical. On cherche le contre, on cherche à toucher Vinicius. En fait, on construit à droite pour exploser à gauche. Mais c'est réfléchi, c'est quelque chose de pensé. Et dans ce style-là, Isco n'a pas intérêt à jouer, donc il ne joue pas. Il fait des choix, il fait des trucs intéressants et ça paye. Bien sûr qu'il prend un Real malade, il prend un Real qui n'était pas très bon, il prend un Real dans une saison de transition, il prend un Real qui doit composer avec une seule recrue, c'est Mariano, une recrue de poids, c'est Mariano, et qui a perdu Cristiano Ronaldo. Il prend un Real qui a perdu Zidane, qui a pris Lopetegui, qui n'a pas été bon. Il prend un Real à la cave après un cinquième dans un Classico. Et là, globalement, il est en place pour faire finale en Copa del Rey. C'est vrai que sans ce quoi contre Girona, ils auraient été plus haut, mais globalement, ils sont troisième de Liga, ils sont à égalité à peu près avec l'Atleti. Ils sont loin, mais ils sont pas très très loin du Barça. En Ligue des Champions, il a l'air reparti pour faire quart ou demi, je pense en tout cas. Il est en capacité de le faire. Du coup, pour une première saison sur un banc à ce niveau-là, vraiment, c'est à ce niveau-là. Le Solari, c'est quelque chose de nouveau d'être aussi haut. Il a pris, quand il était avec le Fabrica, c'était beaucoup moins bon. C'est plus bas, c'est d'autres styles de jeu, c'est d'autres. Et il a continué de montrer, il a montré des choses intéressantes. Là, il continue d'inclure des jeunes. Moi, j'ai vraiment du mal à qu'on tombe sur Solari, qu'on pense que Solari n'est pas au niveau, alors qu'il montre des choses. Peut-être qu'il ne montre pas les choses qu'on voudrait voir, mais il montre des choses. Et ça, c'est dommage de ne pas les voir ou de mettre un voile sur ça en disant oui, mais on est derrière le Barça, oui, mais on n'est pas bon là. C'est vrai, mais le Real n'est pas bon cette saison. Il a plein de cartes qui ne sont pas bons. Il n'a plus d'impact player. Il a Bale qui devrait être le successeur de Ronaldo qui n'est pas bon. Asensio qui a du mal à revenir. Isco qui n'est pas bon. Du coup, ce qu'il faut voir, c'est Llorente, c'est Reguilón, c'est Vinicius, c'est Benzema, c'est Modric, c'est Ramos, c'est Odriozola. C'est ça qu'il faut voir. Parce que Nacho, par exemple, Nacho, il n'est pas bon. Alors que Nacho, c'était un soldat de Zidane. C'est un mec qui a toujours rendu des services. Nacho, cette saison-là, il n'est pas bon. Il est même catastrophique, vraiment.
Mais il faut aussi préciser que Solari est très ami avec Simeone.
Oui.
Ils ont souvent parlé foot et tactique. Donc, ça peut être un axe à développer la saison prochaine. Là, comme tu l'as dit, il a lancé des jeunes. Il a fait pour l'instant, on ne va pas dire qu'il a fait du mauvais boulot. Le premier Classico, pour un partout, ils peuvent très bien le gagner aussi.
Il va gagner le derby contre l'Atlético.
Oui, avec un Casemiro et un Modric de feu. Ramos revient pas mal. Bon, moi, je suis toujours pas d'accord avec son gardien de but, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Je préfère Keylor, mais faudra. Je pense que c'est quand même compliqué de pas mettre Courtois parce que bon, vu qu'il est arrivé, qu'il a coûté un bras. C'est clair que Keylor, il passe à la cave. Mais c'est vrai que. Par rapport à l'équipe qu'il a eue quand il est arrivé, parce que tu en as parlé du premier Classico, le 5-1, qu'on avait d'ailleurs brillamment commenté.
C'est vrai.
Il y avait rien, quoi, parce que même sans Messi, c'était fait rouler dessus. Il y avait Lopetegui, il n'avait pas réussi à transmettre quoi que ce soit. Alors là, récemment, il a dit qu'il aurait mérité plus de temps. Mais à un moment, t'as pris une boîte au Classico, tu peux pas non plus. Puis en Ligue des Champions, c'était pas terrible non plus. Il fallait trancher et voilà. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore revenir sur la gestion de Florentino Pérez, parce que vraiment, le Real Madrid, tout le monde rêverait de l'entraîner. Et là, ça fait depuis Zidane que plus personne n'a envie, quoi. Quand Zidane remplace Benitez, bah, c'est pas vraiment le choix, vraiment le choix par défaut au final.
C'est ça.
Donc on verra comment ça évolue. Là, plus particulièrement sur le match, on commence par le match retour. Déjà, le Real Madrid va jouer à domicile et sera qualifié au coup d'envoi. Ce qui peut quand même représenter un avantage parce que plus que jamais, les Merengues vont être dans leur circuit préférentiel, c'est-à-dire verticalité et contre.
Ouais, mais c'est vrai. Et en plus, c'est un plan qu'ils arrivent à mettre. C'est un plan qu'ils arrivent à mettre en marche bien cette saison. En tout cas, ils arrivent à faire ce qu'ils arrivent à faire sur le fait de construire à droite avec Modric qui va combiner avec Lucas Vázquez et Carvajal pour après toucher très rapidement Vinicius qui va essayer de toucher Benzema et Benzema qui va essayer de retoucher Vinicius. C'est un circuit qui est simple, mais c'est un circuit qui existe, qui est mis en place, qui réfléchit, qu'on voit se reproduire globalement. Donc, c'est ça, un circuit préférentiel. On pense que ça se met en place, mais ça se met en place. On voit des choses. La hauteur de Reguilón qui compense les montées de Vinicius, c'est intéressant aussi. C'est quelque chose qui est réfléchi pour l'équilibre de l'équipe. Lucas Vázquez, qui est un garçon plus travailleur, plus associatif, plus tourné vers ses coéquipiers qu'un mec comme Bale ou comme Asensio. Parce qu'Asensio, c'est pas le mec. Il est associatif, mais c'est plutôt un garçon qui va provoquer, qui va être dans le dribble.
À propos d'Asensio, est-ce que tu penses qu'il est repassé devant Bale ce week-end?
Bah, il est repassé devant Bale, mais Lucas Vázquez est encore devant. Du coup,
ouais, c'est quand même un peu. Enfin, ouais, non, c'est clair qu'on n'est pas sur la même catégorie de joueurs. Mais tu vois, Asensio, il souffre un peu du phénomène Isco. On ne sait pas son poste.
On sait surtout pas son style.
Mais je crois que même lui ne sait pas. Hein.
C'est ça le problème.
C'est ça qui est un peu gênant parce que du talent il en a, mais là il est en train de cette saison qui devait un peu être la saison. De l'éclosion et d'être titulaire, il doit commencer saison titulaire normalement. Il n'y arrive pas quoi. Donc, ouais, Bale reste un peu devant parce qu'il a quand même, il marque des buts quand il joue, même s'il joue mal et qu'il n'est pas vraiment et que le vestiaire commence à avoir vraiment envie.
Le truc, c'est que je pense que dans la logique de Solari, Asensio est devant lui. Sauf que Lucas Vázquez, je pense que c'est son titulaire à droite. Et à la 70e minute, quand il faut faire un choix, Bale, il sait très bien qu'il va rôder dans la surface. On l'a vu contre l'Atleti, on l'a vu là contre l'Evente, où il va être capable de mettre un coup de fusil, un coup de canon, qu'il va être capable de laisser traîner la jambe, de mettre une belle frappe, de faire un bon déplacement. Et du coup, je ne sais pas. Je pense que dans sa logique, peut-être que Bale est moins intéressant et moins bon collectivement qu'un Asensio, mais dans certaines logiques de match, Bale est plus intéressant et donc passe devant Asensio. Parce qu'Asensio, on a du mal à le faire jouer régulièrement, on a du mal à le connecter pendant de longues minutes dans le match, on le perd, on l'oublie. C'est pas un Vinicius, par exemple. Vinicius, il prend ses responsabilités, il a une filière, deux filières, qu'il fait très bien, on sait comment il fait, ça marche complètement tout le temps. Du coup, on sait l'activer. Vinicius, pour l'activer, c'est simple. On lui donne un ballon un peu excentré, pas dans la course, si possible, sur le côté gauche, et il va en faire quelque chose. Ça, on en est quasiment sûr. En tout cas, il va essayer de faire quelque chose avec ça. Asensio, on a du mal. Est-ce qu'il faut le chercher dans l'axe? Il faut le chercher en profondeur? Est-ce qu'il faut le chercher plutôt dos au but? Est-ce qu'il faut le chercher à l'arrêt? Est-ce qu'il faut le chercher plutôt pour qu'il puisse déborder ou est-ce qu'il faut centrer? On a du mal à savoir comment le connecter. Et on a l'impression, comme tu as dit avec Isco, c'est un garçon qui doit se connecter. Isco, il y a des moments, il est très bon. Quand il fait ce qu'il veut, mais quand il fait ce qu'il veut, c'est qu'il se déplace où il veut, il touche le ballon de la manière qu'il veut, il touche le ballon autant qu'il veut. Il s'active comme ça. Asensio, sous Zidane, il est surtout bon quand il est un peu remplaçant ou qu'il est un peu dans ce style de joueur de rupture. Du coup, voilà, sous Solari, on a encore du mal à trouver comment on peut l'activer et comment on peut lui donner un rôle vraiment déterminant. Lucas Vázquez, c'est un joueur qui sera plutôt monogame. C'est un joueur qui va, comment dire ça, qui est un travailleur, c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui va au charbon, c'est un joueur qui ne rechigne pas la tâche. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on attend de lui, et on sait comment l'activer, on sait comment il va fonctionner, on sait ce qu'il va apporter à l'équipe. Asensio, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment trop compliqué de savoir comment lui donner de la continuité. C'est pour ça qu'il est derrière plein de monde, parce qu'il a du mal à apporter de la confiance et à apporter quelque chose de continuel pendant les matchs et sur plusieurs matchs. C'est pour ça qu'on le relègue derrière. Et c'est un peu le symptôme de Bale. Bale, il y a un match, il va marquer un triplé parce qu'on va réussir à le trouver dans un bon jour. Et il va être très bon. Et le match après, il va avoir du mal à faire un crochet, une passe. C'est compliqué.
Et quand en ce qui concerne le Barça, comment tu vois ça? Cillessen et Arthur sont dans le groupe, hein, apparemment.
Ouais. Il est absent, hein, Cillessen.
Non, non, dans le groupe.
Ah, il est dans le groupe? Ouais,
Par
il...
contre, je crois qu'il est en face de. Je crois qu'il est dans le. J'ai vu passer ça, alors il faudrait que je vais peut-être chercher ça, mais il me semble que ils sont susceptibles d'être dans le. Ouais, ils sont susceptibles d'être dans. Cillessen, j'en suis sûr.
Après, on peut imaginer pareil. Je pense que le Barça peut jouer tout ce qu'il faut sur la Copa et faire tourner pour la Liga. Parce qu'ils sont dans une logique pareille. La Liga, elle est quasiment pliée. Ou même s'ils perdent 3 points, ça va relancer un peu l'Atleti. Mais bon, ils ont encore 4 points. Ils ont un matelas intéressant. Il y a encore une confrontation contre l'Atleti. Du coup, on peut imaginer un 11 propre, comme on l'a vu contre Séville. Enfin, j'espère, comme on l'a vu en deuxième mi-temps face à Séville. Donc, sans Vidal. Moi, j'espère sans Sergi Roberto parce que Semedo, c'est pas le meilleur, mais je le trouve intéressant. Donc, je pense que Sergi Roberto va être là. Mais surtout que Semedo, contre le Classico à l'aller, il avait été très bon, il avait très bien servi, très bien bouclé Vinicius, il avait fait un très bon match. Donc, ça serait intéressant de le voir. Est-ce que Malcolm va jouer? Qui a été...
L'idée qu'il joue parce que déjà il a marqué à l'aller et puis parce
Et
que
après, il a disparu. Il a marqué l'aller, on l'a plus joué.
je comprends pas la gestion de Valverde avec
Il a disparu. Dembélé, je pense qu'il va jouer.
oui je pense que Dembélé en plus il a besoin de minutes donc je te
Dembélé.
confirme Arthur et Cillessen sont fait partie de l'été à
Alors,
l'entraînement.
Arthur, je pense que Cillessen va peut-être jouer titulaire. Arthur, je pense que ça va être court. Moi, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'il prenne un peu ses dispositions et qu'il mette Alegna titulaire.
Tiens d'ailleurs vite question Donc Dembélé Coutinho, tu mets Dembélé.
Ouais.
L'anglais Umtiti.
L'anglais.
L'anglais aussi.
Bah, dans un match aussi
J'ai
compliqué
peur
que ça.
qu'il fasse revenir un petit peu tôt, moi. J'ai peur qu'il fasse revenir un petit
Une
peu. C'est
petite
bizarre la gestion de Umtiti parce que d'un côté, il y avait. C'était. Il est peut-être passé sur le billard, la saison terminée, et puis d'un seul coup, il est titulaire contre Séville. Donc c'était. Peu étrange ce qui s'est passé en termes de. Dans la gestion de Umtiti. Après, ça leur fera pas de mal d'avoir un défenseur en backup parce que.
Ils avaient que Vermaelen là.
Ouais, ça change la vie quand même d'avoir Umtiti, hein.
C'est sûr. Mais après, moi, au milieu, voilà. Au milieu, je mettrais soit Coutinho à la place de Vidal, à côté de Rakitic, ou je mettrais Alenia. Moi, je mettrais Alenia.
Oui, moi aussi. Mais après, c'est toujours pareil. En Ligue des Champions contre Lyon, moi j'aurais mis Alegna aussi, mais.
À un moment, il va falloir lui donner du à ce garçon, quoi.
Je sais que je suis mesuré et que contrairement à Tracy Rodrigo qui adore Carles Alenia,
C'est le
mais
seul.
elle fait partie de celle qui est la présidente du fan club. Mais
Sur les dates à la carte. Hein.
c'est vrai, exactement. Mais c'est vrai que moi je suis toujours un petit peu plus mesuré par rapport à lui, mais c'est vrai qu'il a énormément progressé. Il se met au niveau de l'équipe. C'est vrai quand même. Alors Arthur a été blessé, mais quand même démarrer avec Arthur Melo, Carles Alenia, ça me semble le minimum. Parce que bon, Rakitic à l'heure actuelle, c'est il court. Alors lui, en fait, c'est un joueur extrêmement créatif. Rakitic, c'est un joueur fabuleux, mais le problème, c'est que ça fait des années qu'il n'est plus un carreau devant l'autre. Donc c'est un petit peu gênant. Ça fait 2 ans que bon, c'est l'ombre de ce qu'il a pu être, quoi. Donc lui, par exemple, il a pâti de la liaison Messi-Alba. Mais Rakitic, à un moment, faut qu'il fasse un petit séjour sur le banc, ce garçon, parce que déjà, il faut mettre de la concurrence dans la rotation, et puis parce que tout simplement, Arthur, tu vois comment il gère le milieu de terrain, comment la précision de passe qu'il a, c'est vraiment un joueur Barça, vraiment étiqueté Barça. Et puis Alegna, il a quand même, c'est pas en le laissant sur le banc, en lui disant je vais te disputer des 20 minutes et tout ça qu'il va progresser, c'est en tant titulaire sur des partidas. Celui-là, quand même, c'est une demi de Coupe du Roi, voilà, c'est au moment de le faire jouer.
Ah oui, non, mais c'est clairement. Et en plus, au moment, il va falloir lui donner sa stabilité.
J'aime beaucoup Valverde par exemple, j'aime beaucoup le personnage, mais je ne comprends pas,
Mais
je
non,
ne
mais
comprends.
il faut
Et je veux
l'expliquer.
dire, il a un côté Marcelino à s'entêter sur des trucs, tu fais mais change, essaie de t'entendre un autre truc.
Mais en plus, on peut le dire avant son arrivée, quand il est à l'Athletic, c'est le meilleur technicien, tacticien de la Liga.
Très bon tactique, mais c'est bizarre, c'est un très bon tactique. Peut-être qu'après, tu as des entraîneurs qui sont faits pour une certaine gamme
C'est
de
possible.
clubs et que lui, c'est bizarre parce que quand même, il a la matière qu'il veut, il peut recruter qui il veut, et puis tu te retrouves avec une sorte d'attaque-défense un peu bizarre.
Mais en plus, voilà, il est toujours dans cette recherche d'équilibre, toujours dans cette recherche de contrebalancer ses choix. Il est toujours dans cette logique d'avoir toujours une assise défensive qui soit cohérente. Et en plus, ça va à l'encontre du Barça parce que c'est les joueurs qui sont pas l'habitude de jouer comme ça. Du coup, on les met dans une filière qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Du coup, on s'expose à être en difficulté sur les transitions défensives, alors qu'on devient très bon sur les transitions offensives. Enfin, c'est flou, c'est pas bon et c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment un garçon que, comme tu l'as dit, moi je l'apprécie beaucoup parce que c'est toujours un excellent tacticien, mais là il perd un peu quelque chose, il a une perte de mojo, il a cette recherche d'équilibre qui est pas bonne.
Je pense qu'il y a aussi cette recherche de l'équilibre à tout prix, alors qu'au Barça, il n'a pas forcément besoin de l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'il va privilégier un Sergi Roberto, par exemple, un Semedo, alors que bon, Semedo, à l'heure actuelle, à choisir entre les deux, enfin, il n'y a tellement pas photo que tu ne sors même pas l'appareil, quoi. C'est incompréhensible, quoi. Après, il y a des joueurs qu'il faut peut-être un peu plus reposer. Je pense à Busquets, tout simplement, parce que Busquets. Entre les blessures qu'il a eues ces dernières années, il est un peu, alors, il est toujours bon, Busquets, mais ce serait intéressant d'avoir un peu plus de. Ouais, essayer de tourner un petit peu plus, je pense. Pas comme Xavi sur la fin, tu vois, mais dans ce goût-là, tu vois. Pas terminer les matchs, mais tu vois, le reposer sur des matchs où tu es sûr de gagner, quoi. Par exemple, limite une demi-saison, d'ailleurs. Bah, puis d'ailleurs, ça sera très bon pour la Real, s'il y avait un Busquets à 100%. Mais voilà, c'est un peu étrange ce truc-là. On va voir sur le classico de mercredi. Ça peut être un point d'inflexion pour le Barça aussi. Hein.
Bah
Parce
ouais, mais on
que
l'attend, le truc c'est qu'on, enfin, on l'attend, on
en
pense.
Champions Lyon, ils sont. Alors, évidemment, je pense qu'il y a vraiment une classe d'écart entre les deux équipes. Et c'est plus le Barça qui s'est troué. Mais c'était vraiment infâme comme match. Franchement, j'ai regardé, là, franchement, moi, j'étais là, tu sais, les matchs commencent à 9h maintenant. Et je me disais, c'est dommage qu'ils commencent pas 9h moins le quart, on aurait fini depuis un quart d'heure, tu vois. Une tour, oh là là, quelle horreur. Quelle horreur, mais surtout quand t'as le match derrière, Atlético Juventus, tu vois.
C'est
Bah,
sûr.
t'avais que dalle, c'était une bouillie de foot. Mais Lyon s'en sort très bien, faire 0-0 à domicile, c'est très bon, hein, si tu n'étais pas obligé de gagner. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à tenir avec Pep Genesio, ça, c'est autre chose. Mais ils peuvent très bien se faire avoir
Bien sûr.
le Barça. On est déjà l'année dernière, ils sont fait remonter contre la Roma. Donc c'est alors que vraiment il y avait beaucoup plus d'écart en match aller, il y avait deux pions d'avance. Donc quand même, ouais, attention, hein, le Barça mentalement en Champions, ils sont pas forts. Ils peuvent vraiment, ils ont beaucoup de choses à perdre aussi, comme au même titre que le Real. Hein, donc ça va être vraiment une semaine cruciale, ces deux classicos, Caliente tout ça. Et donc pour là, évidemment, pour les deux classicos, il y aura masse de papier prêt via les notes, les analyses tactiques, les portraits.
Ouais, il devrait y avoir un bon mélange entre papier historique et portrait d'anciennes gloires, même jusqu'à les années 30, et des papiers plus actuels sur Lucas Vasquez, sur Solari, sur Elenia. On devrait avoir un beau mélange de super intéressant. Super intéressant.
Il reste quelques minutes, pour l'instant nous sommes à l'heure. On va essayer de faire ça. On joue les arrêts de jeu là. Les arrêts de jeu de la VAR, on va dire, à 7 minutes.
Voilà.
Valencia Betis, deuxième demi-finale. Il y a eu 2-2 à l'aller, avec retournement de situation improbable pour les Blanquinègres qui ont égalisé dans les dernières minutes. Qui ont mis deux buts, à rester mené 2-0. Après un but notamment de Joaquín Sánchez, l'éternel, qui a mis un goal olympico, donc un corner direct. Donc le feu. Mais est-ce que tu vois le Betis renverser la vapeur et gagner, on va dire gagner, parce que a priori je vois pas trop un 3-3, mais est-ce que tu les vois gagner à Mestalla?
Alors, est-ce que je les vois gagner à Messalia? Non. Est-ce que je les pense en capacité de gagner? Enfin, ils peuvent le faire. Oui. Ils ont reposé Lo Celso notamment cette semaine. Ressé n'a pas joué cette semaine. Problème, c'est qu'ils ont toujours ces problèmes-là avec Barragan est sorti sur blessure le week-end. Enfin,
Oh, c'est pas non plus très grave, hein, Bragan qui se blesse.
Hein?
Bragan qui se blesse, c'est tout dommage pour lui, revenir à Mestalla, mais sinon, à part ça.
Ah, le problème, c'est qu'après, ils n'ont toujours pas latéral gauche. Ils n'ont que Francis à droite. Ils avaient fait souffler aussi Mendy. Bartra, ils avaient fait souffler Sidney aussi. Du coup, le Betis s'est clairement tourné vers cette demi-finale. Le Valence avait surtout fait tourner à Parejo, qui a enfin un peu, Dani, qui a enfin un peu pu se mettre sur
D'ailleurs,
le.
la compo de Marcelino, heureusement que j'ai pas vu le match parce que sinon j'aurais pété un câble.
À Sobrino, il a croqué
Ah,
le match.
mais non, mais déjà, tu mets pas un double pivot Coquelin Kondogbia, tu mets Soler dans l'axe.
Techniquement, c'est ce qu'on aurait dû voir. Bon, c'est pas ce qu'on a vu, mais.
Il refuse catégoriquement de le mettre dans l'axe.
Non,
Donc écoute. Alors Soler est plus un genre de 4-3-3, mais quand même, ça méritait. Moi j'ai toujours bien aimé quand il a plus pris le leadership dans l'axe.
bah, on l'a vu un peu désolé dans l'axe, mais c'est vrai que c'était pas le truc le plus fondamental, quoi. C'est pas le
Je
truc.
trouve qu'on le perd un tout petit peu. Moi, je pense que déjà au match retour là, contre Mestalla, Kanginin va rentrer. Il a joué la fin de match contre le Celtic. Et alors, je l'avais jamais vu. Non, si, je l'avais vu au Trophée d'Alain en début de saison. Il avait marqué un but notamment. Mais là, dans un vrai match, il est vraiment très intéressant ce joueur. Il est vraiment, vraiment très intéressant. Tout va. Alors, tout Valencia compte dessus. Là, même Valence a signé un contrat avec LG parce que c'est une marque coréenne. Donc autant te dire qu'il est verrouillé, double verrouillé. Hein. Donc le petit Kangin. Comme tu l'as dit, Parejo était sur le banc. C'était même une surprise parce que t'as vu.
Je crois qu'il a débuté deux matchs sur le banc cette saison.
Ouais, c'est ça.
Un match de coupe et un match
Ouais, puis il était oui, contre Ebro en coupe, premier tour de
coupe.
Coupe du Roi. Et quand il n'a pas joué, c'était quand il était suspendu. Je pense notamment le match, il est expulsé contre Villarreal. Donc c'est en tout début de saison. Ça va être la quatrième ou cinquième journée de mémoire. Donc oui, quand il est suspendu, il joue pas. Donc sinon il est tout le temps là et c'est vrai que moi je suis pas un palétriste convaincu mais la passe qu'il donne à Vaz pour le but de Gamero contre le Celtic c'était dans mon axe mon collègue
Non, mais il est bon.
ah ouais la passe de quarterback hein. Ouf. Ah
Oui,
ouais
ça, tu
ça a
peux
sauvé la
pas.
partie parce que c'était vraiment pas terrible ça joue vraiment sur un rythme ils ont pas joué hein, contre, clairement d'ailleurs je pense qu'ils l'ont payé contre les Ganes je pense que quand tu joues pas les matchs vraiment à fond derrière tu perds un peu de rythme. Donc voilà, et puis en parlant du Bétis, ils ont sauté contre Rennes. C'est marrant, il y a un site qui disait que le Bétis était prenable contre Rennes. C'est marrant, je n'arrive pas à me rappeler lequel.
Ouais.
Je sais pas, j'arrive pas à me rappeler,
Mais
tu vois.
non, c'est un exploit, on t'a dit. C'est quelque
Ah
chose de
bah ouais, c'est un
fondamental pour
exploit.
le football français.
Bah oui, bien sûr, c'est un exploit. Non, c'est. Voilà, bon bref, on peut être un petit peu lourd avec cette histoire, mais quand on prend. C'était quand même nous qui avons, enfin, nous on a quand même annoncé que c'était vraiment jouable pour Rennes, même si on était un peu moins convaincu, il faut bien l'avouer, après le match aller 3-3.
C'est vrai,
On
non,
disait
non, mais.
que Marine, ça allait quand même être au chaud, mais ils n'ont jamais été menés, Rennes, contre le Bétis. On savait qu'il y avait des failles, que c'était irrégulier. Mais bon, vu que ça regarde que les matchs contre le Barça, alors évidemment, c'était l'équipe passe de l'année, mais bah, faut regarder la saison dans sa globalité avec du recul. Donc je pense que nous, on l'a bien fait. Donc on n'est pas vraiment surpris parce que quand tu prends le match contre les Ganes, c'était vraiment le blueprint, comme on dit en boxe. C'était vraiment ce qu'il fallait absolument faire pour vraiment les gêner. Mais en tout cas, voilà, ils étaient. Bétis, c'est une équipe qui peut être très forte, mais aussi qui peut être complètement vrillée et être très irrégulière. Donc voilà, et là, là en plus, le Bétis a une double pression, c'est-à-dire qu'ils vont être éliminés au coup d'envoi,
Ouais.
mais surtout dans la finale à la maison.
Ouais.
Alors je vais pas m'avancer
Ça va changer, je pense, hein.
et pas faire Calimero tout de suite, mais bon, on sait comment ça peut se terminer cette histoire.
Mais on sait que ça va s'arrêter. À mon avis, s'ils sautent, ça va se retourner.
Alors,
Ça va se retourner.
on va le commenter ce match jeudi soir. Mais j'ai peur de porter la guigne pour dire la vérité parce que franchement ça sent là non mais ça sent la carotte à Bugs Bunny cette histoire je te le dis vu ce qu'on a vu comment avec Casemiro avec la VAR tu sais tout peut t'arriver tout peut t'arriver
C'est vrai, c'est vrai,
donc
c'est vrai.
d'ailleurs pour revenir là-dessus on fera un podcast très bientôt sur la VAR peut-être la semaine prochaine
Ah,
ou
sûrement parce que Miguel Hernandez devrait être là la semaine prochaine. Je mets le conditionnel. Et il avait fait déjà un très bon papier sur la VAR en première partie de saison.
Exactement. Et là, ben, là c'est le. Non, mais ce qui était très marrant, c'est qu'en Espagne, il y a eu des émissions pour t'expliquer les pénalties, quoi.
Surtout que il y a la double peine parce que. Comment ça s'appelle? C'est Doucouré je vais pas dire la faute, qui fait l'action, qui entraîne les pénalty parce qu'il le touche jamais. Et Doucouré sur cette action-là se fait les croiser.
Oui, en plus.
Donc, Doucouré sort et c'est tombé aujourd'hui. Il a les croisés, on ne verra plus la saison. Alors qu'il a rien fait sur l'action, à part rater le ballon.
Voilà. Non, mais c'est ce qui s'est passé là est incompréhensible. Donc, voilà, pour ceux qui pensaient que la VAR allait changer quelque chose chez les puissants, bah non, pas vraiment. Donc, c'est marrant parce que Boutragueniol, enfin, il y a 2-3 semaines, le Real s'était plaint. Maintenant, il fait, nous, on se plaint pas de l'arbitrage. Bon. Voilà, c'est toujours les mêmes. Je trouve même qu'on parle encore plus d'arbitrage qu'avant. C'est quand même un exploit en Espagne. Donc voilà. Et puis bon, voilà. De toute façon, c'est là, il y a eu un exemple aussi en Ligue des Champions avec le but de Morata qui a été refusé. On peut en discuter trois plombes, hein, mais bon, voilà. À partir du moment où tu checkes des images au triple ralenti, alors que tu dois les juger à vitesse réelle. S'il te faut 45 ralentis, c'est qu'il n'y a pas faute. Hein. Je suis bien désolé, mais s'il te faut 4 angles pour savoir si truc et tout, c'est qu'il n'y a pas faute. Hein. Sinon, la faute, elle doit être évidente. Enfin bon, bref. Voilà, ça, on en parlera la semaine prochaine, je pense.
Ouais.
Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que Valence, tu vois qui démarrer. Bah, Jaume Domenech, je pense, hein, pour histoire de rigoler un petit peu.
Oui.
Hein, histoire de bien. En face, il y aura Joël Robles. Donc ça va aller, tu vois.
Ouais,
Tu diras.
ça va s'équilibrer.
Ah bon, il risque d'avoir des buts, quoi. Gareille est blessé un mois. Ça, c'est la grosse tuile pour Valence, blessé contre le Celtic. Donc qui va évoluer en défense? Coquelin a joué central contre le Celtic. C'est lui qui était rentré.
Roncaglia, il est pas, il va pouvoir démarrer.
Ouais, il va y avoir Roncalia. Il va y avoir Roncalia et
Diakabi,
Diakabi. Ouais,
Diakabi, Diakabi.
exactement. Voilà, tu vas avoir côté, tu peux. Alors Garay s'est cassé le nez, donc il veut jouer, donc on va voir s'il va pouvoir jouer.
Ouais.
Tu seras Lato. Piccini, je pense qu'il va être titulaire à droite parce qu'il est au match contre les Ganes.
Ouais.
Kondogbia, Coquelin avec Palero, ça c'est sûr. Sur les côtés, il y aura. Moi, je vais dire qu'il y aura Cheryshev, Solaire. Mais peut-être qu'il y aura surprise Guedes.
Guedes,
À voir.
ouais.
D'ailleurs, je pense qu'il y a un papier Guedes qui va sortir chez nos collègues de Valencia Sport cette semaine pour voir un peu où en est l'ancien Parisien qui, contre le Celtic, m'est passablement sorti des yeux. Donc, c'est un joueur qui doit comprendre que le foot se joue à 11. Donc, c'est intéressant de suivre sa progression à Guedes parce que c'est un bon joueur, mais il doit pas forcément suivre l'exemple de Cristiano Ronaldo.
Là, il plafonne clairement. Là, il plafonne sacrément et c'est.
Parce qu'il a une blessure, mais il pense encore qu'il a le. Il doit encore revenir, il doit encore récupérer son niveau, sa vitesse et tout. Donc il doit quand même faire confiance à ses coéquipiers. C'est-à-dire quand tu débordes trois fois, que tu veux centrer pied gauche, que tu te fais chaque fois gauler par ton défenseur, peut-être que la quatrième ou la. Il faut comprendre plus vite que tu dois jouer,
C'est
tu dois
sûr.
centrer, tu dois faire quelque chose. Donc voilà. Et devant, Gamero, Rodrigo. Si Rodrigo est remis, j'espère que non. Non, il devrait être remis. Hein, mais
Il va jouer titulaire avec Gamero. À mon avis, Gamero.
ah, Gamero, il est chaud. Gamero, il est très bon.
En plus, il est bon. Ouais, il est, en ce moment, on lui a un peu
Ouais,
plus et c'est vrai que.
je suis quand même ravi de voir Gamero à ce niveau-là, parce que
C'est
c'est
vrai
un joueur que j'aime.
qu'on a été juste avec lui parce qu'il a été vraiment pas bon en début de saison. Et là, ça fait plaisir de le voir au niveau, de le voir plus intéressant. Il est toujours maladroit devant la cage par moment, mais ça fait plaisir quand même de le voir intéressant et en tout cas au niveau de ses coéquipiers.
Et en ce qui concerne le Bétis, l'interrogation va sûrement se jouer sur les côtés et devant. Parce que devant, tu mettrais qui, toi, comme attaquant?
Alors moi, Lainez, j'ai un doute, mais je crois que Lainez, je suis blessé au match contre Valladolid où ils ont été nuls, mais nuls, modèle géant, et ils ont marqué 2-0, même eux, je pense qu'ils sont surpris. Devant, je pense que Ressé va jouer avec Lorraine ou avec Lainez à côté de lui, parce que le match contre Alavés, ils étaient très bons les deux associés. Du coup, je pense que ça va jouer comme ça. Je pense qu'à gauche, en tant que latéral gauche, ça va être Guardado, le Mexicain. À droite, on va avoir Francis. Derrière, ça va être classique, Sidney, Bartra et Mendy, je pense. On va avoir Carvalho, Canales, Lo Celso au milieu. Je pense que ça va être classique. Je pense vraiment que, hormis Robles derrière, je pense qu'on devrait avoir un 11 globalement de gala, entre guillemets. Parce que contre Valladolid, ils avaient fait tourner. Ils avaient fait reposer des cadres et ils jouent leur saison. C'était un peu la une de la presse avant le match contre Rennes que c'était la saison en une semaine avec le 16e contre Rennes et la demi. En vérité, c'était plutôt la saison dans une semaine après le match parce que le match contre Rennes, c'était pas le tournant de la saison. Là, ils sont à une marche d'une finale dans leur stade. Ça pourrait mettre déjà que le projet est vraiment très en avance sur ce qu'on pensait. Ça pourrait valider encore le fait que ce projet-là est viable sur le long terme et cohérent. Du coup, voilà, la saison va se jouer ce jeudi-là, je pense, parce que s'ils perdent là après avoir mené 2-0 lors de l'aller. À l'extérieur. Et en tout cas, voilà, eux viennent pour sauver la saison ou en tout cas faire de cette saison qui est bonne une excellente saison.
Et puis ils vont aussi jouer cher contre Getafe donc en Liga, comme on a parlé en première partie.
Ouais.
Et nous, on se retrouvera tous les deux jeudi pour commenter le match. Je sais plus à quelle heure est la partie d'ailleurs. Je crois que c'est à 21h. Il me semble. Exactement. 21h. Donc, on prendra l'antenne vers 8h30, je pense.
Ouais, avec les compos, comment c'est les premiers trucs tactiques, comment les duels dans le match, les trucs comme on avait fait la dernière fois avec lors du Classico.
Voilà, parce que bon, on s'est dit que là, le Classico, on avait bien marché sur la Liga, mais on se dit que face à Benjamin da Silva et Omar da Fonseca, on comprendrait de ne pas avoir de succès. Donc, on va plutôt pencher pour la deuxième demi. Et puis. Ouais, il va y avoir un Mestalla, je l'espère, de très très haut niveau. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé être à la réception du bus parce que ça va être fabuleux. Je pense que la Coulvanor et toute la Fission vont attendre le bus 2 heures avant le match. Donc ça va être toujours un grand moment, c'est toujours de très belles images. Et voilà, je pense qu'il y a tout pour que ce soit, un match de feu avec, on saura qui est le premier finaliste entre le Real et le Barça. Donc voilà, ça nous fait une grosse semaine devant nous, les amis, sur foireliga.fr. Benjamin Bruchet, merci de m'avoir accompagné.
Merci. Alors, je vais juste faire un petit mot à Francis Borrelli. Pour l'idée de podcast sur comment sont gérées les promesses du Barça et du Real, enfin au Real et au Barça, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Je n'avais pas vu que tu avais donné l'idée déjà avant. On le note, ça peut être une bonne idée pour un hors-série en essayant d'avoir 2-3 invités un peu intéressants.
Pour la presse, ouais, d'ailleurs, très international bientôt.
Ouais. Du coup, on se le garde et c'est quelque chose, une idée qu'on pourrait sortir, qui est une très bonne idée. Dans le truc de, est-ce qu'ils vont le faire, le Bétis? Moi, je pense qu'ils sont capables de le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas, mais ils sont capables de le faire. Du coup, on peut avoir un beau match et un scénario un peu fou. Et ça sera tout pour moi.
Ouais, c'est vrai que, mais en plus, Valence en coupe cette année, ça joue souvent sur le fil du rasoir. Donc, ça joue souvent en fin de match. Je crois qu'on a fait le tour de ce dont on voulait parler. Ouais. Vous pouvez nous suivre sur foireliga.fr, réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Nos podcasts sur YouTube. Toutes les versions téléchargeables bientôt avec MC Benjamin Brochet qui va s'en occuper. MC La Machina. Et nous on se dit à lundi prochain. Allez, hasta luego. Ciao. Adeo.